Mesdames et messieurs, bonjour.
Madame, monsieur, bonjour.
Tu m'entends pas là? Je te dis que j'ai pas de retour. Mais je m'en fous qu'on soit à l'antenne. J'ai pas de retour, je parle pas.
Retrouvez toute l'info chartrousine sur Radio Couleur Chartreuse.
Du lundi au vendredi, en direct à 11h.
Dans Chartreuse Info. Chartrousine, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 22 juillet et c'est donc le cœur de l'été. Alors je vous souhaite la bienvenue sur les ondes de Radio Couleur Chartreuse. Bienvenue dans la fraîcheur et dans la créativité puisque je vous propose aujourd'hui un Chartreuse Info très très spécial puisqu'exclusivement consacré à l'association Anagramme, une association qui le mérite largement. Ils sont installés à Grenoble depuis 1993 et surtout Anagramme, c'est un lieu de partage autour de la richesse des mots sous toutes ses formes. Sauf que là, on va plutôt écouter Marie Despessaille, une artiste comédienne qui a fait le choix pas raisonnable, comme elle le dit elle-même, de suivre sa petite voix intérieure. Mais en tout cas, on s'en félicite parce que ça nous donne l'occasion de vivre de merveilleux moments.
Alors, moi donc, Marie Despessaille, je suis artiste associée à Anagramme depuis, ça commence à faire, quelques années. Je suis à la base comédienne. J'ai commencé à Paris il y a aussi de nombreuses années. Mmh. Et ensuite, je suis venue il y a à peu près une vingtaine d'années sur Grenoble, où effectivement là, j'étais recrutée à la base par Viviane Venot et Jacqueline Estragon, qui étaient donc fondatrices toutes les deux d'Anagramme. Et j'ai d'abord, j'étais enrôlée comme comédienne lectrice sur un festival qui s'appelait Lieu dit.
D'accord. Alors,
voilà, peu mon historique. Voilà.
Avant de parler d'Anagramme, j'ai quand même une question à vous poser. Comment on devient comédienne ?
Il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de règle. Mon parcours, c'est bon, déjà évidemment une envie. Une envie peut-être pas raisonnable, puisqu'on dit toujours que c'est pas raisonnable de faire d'essayer d'être une artiste, comédienne, peintre, auteur ou quoi que ce soit. Donc c'est suivre sa petite voie intérieure et ensuite là, les parcours sont très diversifiés. Moi, pour ma part, je viens du Pays Basque, donc une petite ville de province. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai suivi des stages. J'ai commencé adolescente. J'ai suivi des stages, notamment d'une dame qui s'appelait Tila Shelton, qui est plus connue sous le nom de Tati Daniel. Je ne sais pas si ça vous parle. Oui. Un film, une comédie d'Étienne Chatillez et qui était une grande dame de théâtre à l'époque. Et je l'ai suivie à Paris. Voilà, et donc moi j'ai fait un peu mes armes à Paris, stage, école, pendant quelques années. Et ensuite j'ai fondé avec d'autres amis et collègues une compagnie de théâtre, voilà.
D'accord, donc vous c'était le théâtre ?
Moi j'ai commencé vraiment, oui, par le théâtre, oui, tout à fait.
D'accord, et Anagramme, comment du coup vous avez connu et qu'est-ce qui vous a plu dans le projet ?
Eh ben déjà le théâtre c'est quand même aimer raconter, interpréter bien sûr, mais les personnages, mais aimer raconter une histoire. Et c'est vrai que la lecture, même si c'est pas le même engagement disons, mais c'est quand même une découverte du texte. Et ensuite vraiment aimer rentrer dans un univers et faire œuvre, si je puis dire très modestement, de passation d'un univers d'un auteur à un public. Et moi, j'avoue que j'adore ça.
D'accord.
Voilà.
Pourtant, il y a tout type de lecture. J'imagine qu'entre lire un poème, lire du théâtre ou lire un texte humoristique, c'est pas du tout la même chose.
Oui, oui, absolument. C'est ça qui est super. Après, je pense que chaque lecteur ou comédien, il trouve son compte. C'est-à-dire, on se sent peut-être plus à l'aise dans certains univers plus que d'autres. Ou alors, on apprend à connaître d'autres univers. On vieillit, on a d'autres expériences. Je pense que ça non plus, c'est très mouvant. Donc, ça change. Et heureusement, d'ailleurs. On peut faire aussi des stages. On peut écouter d'autres personnes. Donc, du coup, me semble-t-il, on essaye en tout cas de s'enrichir aussi. D'accord. Et d'être peut-être le plus complet aussi possible et de découvrir. D'être toujours, je pense, dans cette soif de découverte. Ça, c'est important, je trouve.
Vous avez des modèles ou des gens qui vous ont inspiré dans la diction ou le théâtre ?
Alors moi, j'avoue, ce que je préfère, c'est plus, même dans la lecture, parce que c'est jamais vraiment naturel, c'est toujours très très travaillé, mais je préfère plus l'émotion et le naturel à une technique irréprochable. Alors j'adore Lucchini par exemple, mais pour moi il est un peu trop technique. Qui sait, j'essaye de chercher comme ça un lecteur qui pourrait, j'aurais dû réfléchir avant. Il y a des très très belles voix. Bon, évidemment, ce qu'on pense, on pense tout de suite à Guillaume Gallienne. Bon, là, je sais qu'il a arrêté, mais sur France Inter. Mais peut-être, bon, pour parler des gens, des grosses pointures comme ça de comédie française, entre un Denis Podalydès, par exemple, j'en parle parce qu'il était venu à Grenoble pour lire Stendhal, et un Guillaume Gallienne qui est peut-être plus technique, ben, je préférais un Podalydès qui est peut-être qui a une voix moins belle ou qui résonne peut-être un peu moins, mais qui est peut-être plus dans la vie et plus vivant.
Voilà. D'accord. Est-ce que vous êtes une enfant qui a été élevée à coups d'histoires et de belles histoires ?
Alors, dans ma famille, pas vraiment. C'était plus la musique.
D'accord.
Mais en tout cas, au niveau des amitiés, et très tôt, c'était ça. Oui, on s'inventait des histoires, on lisait beaucoup et on fabriquait des petits courts-métrages, on mettait bout à bout des photos pour s'inventer vraiment des histoires. Oui, oui, c'est vrai.
Donc c'était présent.
J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours été un peu dans l'imaginaire. Hein.
Je pense qu'il faut bien ça,
voilà.
De toute façon.
Mmh.
Et du coup, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu Anagramme
ouais.
Anagramme, qu'est-ce que c'est ? C'est un lieu, du coup ?
Alors, Anagramme est c'est un lieu, bien sûr. C'est un lieu qui se situe au centre-ville de Grenoble, rue Raoul Blanchard. Un peu comme ça, quand on passe devant ou de l'extérieur, on fait pas trop attention, on se dit tiens, c'est petit, c'est sombre. Effectivement, il y a un escalier qui débouche sur un premier étage qui est un peu plus grand, où il y a quand même pas mal de livres, pas mal de bureaux. Et je dis ça, c'est parce que on donne ici des ateliers. Donc, il y a vraiment de la place pour une dizaine de personnes. Voilà, c'est un lieu accueillant et chaleureux. Et surtout, Anagramme est une association et compagnie qui existe depuis maintenant 27 ans, si je ne m'abuse, et qui a été fondée donc en 93. Donc, c'est pas
ça.
tout nouveau. Qui donc est une association à la base fondée par deux dames qui s'appelaient donc, j'en ai parlé tout à l'heure, Viviane Venot et Jacqueline Estragon. Une plus basée sur l'écriture et l'apprentissage de l'écriture créative, et l'autre plus le plaisir de dire et qui était comédienne, Jacqueline Estragon. Et ensuite, il y a à peu près, maintenant aussi ça commence à faire, entre 10 et 15 ans, ça a donc été remanié. Jacqueline est partie à la retraite, Viviane anime toujours des ateliers. Mais elle n'est plus dans pas plus trop dans les artistes associés. Elle est plus à la base vraiment de projets artistiques. Donc là, nous avons un petit noyau d'artistes associés, plus ou moins ponctuels, mais dont, disons, le gros noyau est composé de Solène Monnier, Cléo Gilbert et moi-même. Et ensuite, nous avons Anaïs Escott, Benoît Olivier, enfin voilà, des gens qui tournent autour et qui sont également présents à Anagramme.
D'accord. Et quel est le but, du coup, d'Anagramme ?
Alors, Anagramme, vraiment, c'est vraiment de proposer, de partager la richesse des mots et de la littérature. Le plus possible, en essayant d'être le plus original et le plus ludique possible et, dans la mesure du possible, inattendu. Alors, c'est vraiment au travers d'un prisme très divers. Il y a des événements culturels, des lectures, des spectacles. Il y a de la lecture, mais il y a du théâtre aussi. Il y a des ateliers, des stages, des formations, des projets d'action culturelle. Anagramme a quand même un spectre très, très large. C'est pour ça qu'on est vraiment un noyau d'artistes, parce qu'on va un petit peu dans pas mal de directions.
Mmh, oui, sur tous les domaines. J'ai beaucoup écouté le projet « Dis-moi, dis-moi ».
Oui.
Qui était très original et très créatif, j'ai trouvé.
Ah ouais. Alors l'avantage de Dis-moi, dis-moi, de cette manifestation culturelle nationale, surtout francophone, c'est pas vraiment national, même c'est pas du tout national. En fait, c'est vraiment un événement de tous les pays francophones, donc d'Afrique, Québec, etc. Et j'en passe. C'est un événement qui existe depuis, je pense, bien une vingtaine d'années déjà, Dis-moi, dis-moi, et qui a donc l'avantage d'être présent chaque année avec une liste de mots, de 10 mots, d'une thématique liée à un auteur. Bon, par exemple, cette année, c'était une thématique dérivée de l'eau, de l'élément aquatique. Et surtout, par rapport à ces 10 mots, j'ai envie de dire n'importe qui ce soit école, particulier, compagnie de théâtre, cinéma, chanson, groupe de musique, peut vraiment s'en emparer et créer quelque chose, un événement. Ça peut être vraiment une dictée, un spectacle de théâtre, une chanson, c'est vraiment très, très ouvert. Mmh. Et effectivement, c'est vrai que Anagramme, on essaye vraiment chaque année, évidemment, de travailler autour, puisqu'on est pile poil dans notre cible, et de créer chaque année quelque chose de différent et surtout lié à la thématique de ces 10 mots.
Oui, et vous avez aussi une politique un peu d'ouverture et de pédagogie, d'éducation, d'accès à la culture pour tous.
Oui, comment vous faites pour essayer de les étendre ? Dans la mesure du possible, c'est pour ça que notamment dérivé de cette année de 10 mois 10 mots, on a créé depuis déjà quelques années un concours, mais cette année on l'a axé aussi du particulier, des amateurs ou des professionnels, mais aussi en direction des écoles ou des jeunes. Là notamment, il y a plusieurs collèges qui ont travaillé autour de ces 10 mots. Et cette année, on a eu l'idée, je vous passe aussi l'aventure qui n'est pas finie, enfin, j'espère bientôt finie du Covid, mais on a essayé cette année de poursuivre cette aventure du concours avec des lectures en direct par téléphone avec des personnes. Donc, c'est-à-dire que les trois textes, notamment de ces jeunes, de ces collégiens, ont été dits maintes et maintes fois dans des foyers, comme ça, en appelant, enfin, évidemment, surprise de rendez-vous, mais c'est-à-dire qu'ils ont une vie, ils ont existé encore pendant un temps et peut-être encore, ils existeront encore un petit bout de temps, puisque a priori ces lectures ont eu pas mal de succès.
D'accord, et justement, donc ces lectures, ça a été de l'initiative de qui ? Comment ça s'est mis en place ? D'où est venue l'idée ?
Eh bien, pour tout vous dire, c'est moi qui suis à la base depuis un certain temps du projet d'IMO. Hein. L'année dernière, on n'était plus collectif, puis cette année, ça s'est passé comme ça. Et moi, j'ai eu cette idée-là qui n'est pas spécialement originale, mais parce que notamment, j'ai participé en tant que public pendant le confinement par le biais du Théâtre de la Colline à des lectures. C'est-à-dire que moi, en tant que public, j'ai écouté des lectures.
D'accord.
Voilà, deux comédiennes m'ont lu à deux moments distincts des lectures. Et j'ai trouvé ça formidable. J'ai trouvé ça, une plongée directe dans la sensibilité et l'imaginaire. Et en plus, quand le courant passait, alors j'ai eu en plus j'ai pu choisir entre deux univers puisque deux comédiennes m'ont appelé. Et ensuite, on a pu vraiment discuter avec cette comédienne, rentrer dans l'univers de la personne. Il y avait aussi un échange direct avec la personne. Mm-hmm. C'était pas juste recevoir, ce qui est déjà super, juste recevoir un texte ou de la littérature, mais en plus avoir vraiment un échange. Et pendant ce confinement, pendant cette période qui n'est pas encore terminée, on a vraiment envie, en tout cas on est friand d'échanges et peut-être un peu plus que d'habitude de profondeur.
Oui, voilà. C'est un échange privilégié parce que quand on va au théâtre, on fait partie d'un groupe, on fait partie d'un public, alors que là, au téléphone, la personne qui nous lit, elle n'est là que pour nous.
C'est juste pour nous, en plus. Oui, c'est vrai, ça fait du bien à l'ego. Ça fait un peu peur aussi parce qu'on se dit toujours, mon Dieu, on est prise à partie, c'est-à-dire qu'est-ce que je vais dire ? Bon, on peut ne rien dire non plus, juste écouter. Mais effectivement, ce qu'il y a aussi, c'est comme on ne voit pas, puisqu'on est quand même toujours beaucoup sollicité, le sens de la vue est très très important, et quand on ne voit pas, ça développe aussi d'autres choses. Bon, évidemment l'oreille, mais une sensibilité, peut-être on dit des choses qu'on ne dirait pas si on voyait la personne. Mm-hmm. Peut-être on rentre aussi dans l'intimité, je ne sais pas. S'il y a un texte qui résonne plus ou un sujet, peut-être on peut en parler plus facilement.
Voilà. Et vous avez une lecture comme ça qui vous a vraiment marqué, à quel sujet et...
Alors, je sais que j'ai la première m'a lu un texte, une poésie de... Alors, comment ça s'appelait ? C'est une chanson qui a été reprise par Charles Bois, de Rimbaud. Et je ne me rappelle plus du titre, mais c'était magnifique. Et comme on était confinés, et comme j'étais un peu enfermée, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien d'entendre... c'est l'histoire d'un personnage qui s'en va dans la campagne et qui trouve le bonheur comme ça. Voilà. Et je dois dire que ça a beaucoup résonné justement à ce moment précis là.
Et du coup, voilà. pour la suite, Anagramme va continuer donc de proposer ses lectures au téléphone.
Alors, ce projet, parce qu'il faut bien que ça s'arrête un jour, parce qu'on en a, on a pas mal de projets dans nos catalogues. Pour l'instant, c'est terminé, mais il y aura un autre Dimo l'année prochaine avec encore d'autres surprises. Après, ce qu'on, nous, on continue là notre été, si je puis dire, avec des à l'été au parc. On a deux dates de rendez-vous à l'été au parc avec une manifestation qu'on a appelée les lectures sous casque. Ce sont des lectures enregistrées et le public est invité soit à s'allonger sur le gazon, soit sur un transat ou à rester debout et se promener avec un casque sur les oreilles à donc entendre une lecture scénarisée. Et il y a également, qu'est-ce que nous avons encore ? Oui, nous avons aussi un stage, une balade d'écriture en Vercors.
D'accord, ça se passe comment, c'est une balade d'écriture ?
Eh bien, alors c'est pas moi qui l'anime, mais en même temps, c'est donc l'animatrice est Viviane Venot qui accueille un nombre de personnes, je ne sais pas, entre 6 et 10 personnes, je crois. Et il y a vraiment sur une, comment dire, sur un périple comme ça en montagne, sur une promenade qui doit durer bien une journée, il y a des moments où d'écriture et il y a des moments de promenade. Et ces moments de promenade sont vraiment aussi sources et servent de décor à l'écriture.
D'accord. Quel public vous avez en général?
Tout public, hein, vraiment. Tout public. On a des adhérents un peu réguliers qui participent plus ou moins régulièrement à nos stages, mais après c'est vraiment très très ouvert. Nous avons aussi des commandes avec des écoles ou des institutions. On a pu aussi également travailler avec par exemple le centre de détention de Vars. Enfin, le public est très peut-être institutionnel, le domaine par exemple Château de Vizy, le domaine de la Révolution, le musée Hébert, enfin tout ça est très ouvert et assez large.
Qu'est-ce que vous pensez que ça peut apporter aux gens qui participent?
Alors, le mieux passé pour répondre, c'est les gens en question. J'espère, je pense que ça dépend des fois, en tout cas du plaisir, parce qu'on base beaucoup notre échange là-dessus, sur le plaisir. J'ose pas dire une meilleure connaissance. Bon, une meilleure connaissance peut-être de la littérature, on l'espère en tout cas. Les autres de soi, ça me paraît bien orgueilleux, mais en tout cas, un grand moment chargé de plaisir. Voilà, on va dire ça comme ça.
Et j'ai vu que vous organisez aussi des formations donc pour les professionnels, c'est ça ?
Oui. Oui, alors là, c'est plutôt en direction de stages un peu plus de perfectionnement. Ça peut être maîtres ou instituteurs, maîtres d'école, professeurs d'école, dans le collège, au lycée, ou alors des bibliothécaires qui ont envie de se former à la lecture ou de se former peut-être un peu plus précisément soit à la diction, soit à la lecture scénarisée, enfin voilà. Donc on propose ce volet-là également.
Comment vous faites, juste je reviens sur une question que j'ai zappée, comment vous faites du coup pour sortir de Grenoble et essayer d'amener tous ces projets en périphérie dans des endroits où la culture a un peu du mal à arriver?
Bah, c'est un peu notre outil ou notre envie. Alors c'est pas toujours très facile, mais on essaye vraiment, bon, notamment évidemment par le réseau des bibliothèques et des médiathèques, d'aller vraiment le plus possible dans des départements. Alors là c'est un peu plus facile parce que le public est un peu plus ciblé, c'est-à-dire que c'est le public de ces médiathèques, mais on essaye vraiment par exemple à la Fée Verte, dans les Terres Froides, dans le Grésivaudan, enfin un peu importe, mais d'aller le plus possible loin dans les territoires, oui, y compris par exemple on a un festival qui est dirigé par Solène Monnier qui s'appelle le Festival de l'Échappée Noire et qui est consacré aux lectures policières, aux romans noirs. Et là vraiment aussi on essaie évidemment de faire des lectures et des rencontres d'auteurs à Grenoble, mais bien évidemment aussi hors Grenoble et vraiment dans l'agglomération et si possible là où on n'a pas l'habitude de nous voir, où il y a peut-être moins d'activités culturelles.
C'est important.
Oui, c'est très important, bien sûr. Bon, on va y avoir effectivement le Festival de l'Échappée Noire bientôt au mois de novembre.
D'accord, vous avez un peu une idée de qui sera
invité ?
Oui.
Au niveau des auteurs, oui, je peux vous le dire déjà.
Ah, bah oui, ce sera pas mal.
Oui, tout à fait. Alors, pour ne pas écorcher son nom, effectivement, au niveau des auteurs de la prochaine édition, on sait déjà les dates. Ce sera du 4 au 10 novembre, un peu plus tard pour cette saison-ci, mais toute une semaine. Et il y aura deux auteurs invités pour cette saison. Ce sera Ahmed Tiab, déjà, bon, spécialiste de polar et de romans noirs, qui a écrit déjà beaucoup, beaucoup de romans. Notamment pour donner la mort, enfin il y en a vraiment beaucoup, donc on est très très content qu'il ait accepté de venir. Donc avec beaucoup de rencontres, on n'a pas déjà tout calé, hein, mais il y aura des rencontres à Grenoble et hors Grenoble, Bibliothèque Saint-Bruno, peut-être Centre-Ville, sûrement Grésivaudan, enfin bon, il y aura beaucoup de choses avec Ahmed Tiab. Et ensuite avec un jeune auteur issu de Grenoble qui s'appelle Joanne Guillot-Bachet. Et pour son deuxième livre, il a écrit un beau un beau roman noir qui s'appelle La soif des bêtes. Et on a trouvé intéressant, notamment parce qu'on aime bien aussi pousser en avant les jeunes auteurs, parce qu'on a beaucoup aimé son livre, parce qu'il est aussi de par ici, ça fait toujours plaisir, et parce qu'en plus ce roman noir se passe en montagne, dans une station de ski. Donc ça évoque vraiment un univers très spécifique aux Alpes. Et voilà.
Merci.
Et ben, merci à vous.
Merci, au revoir.
Voilà, merci, bonne fin de journée, au revoir.
Radio Couleur Chartreuse, c'est sur le 98.4 et le 106 FM au cœur du massif.
RCC. Voici maintenant ce qu'on appelle une carte postale sonore. Alors celle-ci s'appelle Ristrette et elle est lue par Emmanuel Amiel avec un montage d'Erwan Flagel.
Ristrette.
Toum, 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 toudoum, toum, toum, toudoum, toum, toum, toudoum, toum, j'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café, j'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets, à tes pieds ils se balancent, couleur café. Que j'aime ta couleur café, toum, 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 toum. C'est quand même fou l'effet que ça fait de te voir rouler ainsi des yeux et des hanches. Si tu fais comme le café, rien qu'à m'énerver, rien qu'à m'exciter, ce soir la nuit sera blanche couleur café, que j'aime ta couleur café, toum, 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 couleur café, que j'aime ta couleur café, toum, 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 toum. L'amour sans philosophie, c'est comme le café, très vite passé. Mais que veux-tu que j'y fasse? On en a marre de café et c'est terminé. Pour tout oublier, on attend que ça se passe. Couleur café, que j'aime ta couleur café, toum, 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 toum. Couleur café, que j'aime ta couleur café, toum, 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 toum.
Je vous propose maintenant d'écouter un des textes lauréats du concours « Dis-moi, dix mots ». Le titre, c'est « L'amour à la machine ». Ouh là là, a priori, ça fait pas trop envie. Et l'auteur, c'est Jean Azerty.
Jean Azerty, « L'amour à la machine ». Je te laisse 3,50 €. Voici ma lettre de rupture. Un modèle d'efficience, simple, disruptive, dans l'air du temps, quoi. Et encore, au lieu d'utiliser consciencieusement ma bonne vieille machine à écrire, je l'avoue, j'aurais pu me contenter d'émettre un simple SMS de rupture. Me préservant de mes élans, mon élégance naturelle m'a vite rattrapé et intimé l'ordre de ne pas recourir à ce billet électronique trop expéditif. J'aurais pu également économiser sur les mots. Raccourcir cette phrase déjà trop longue. Je te laisse 3 euros et 50 centimes. 40 signes. 8 mots suivis d'un point final. 10 signes par année de vie commune. Un mot pour chaque rupture que nous avons déjà vécue. Il ne va pas croire que je me livre à de quelconques élucubrations numérologiques. Mon unique préoccupation reste la concision. En homme du 21e siècle, il m'aurait fallu remplacer le mot « euro » par cet affreux petit logogramme formé d'un « e » barré de deux traits transversaux, économisant ainsi quelques caractères à ma missive. Malheureusement, ma fidèle machine à écrire ne me permettait pas de telles économies de saisie. Son clavier est bien trop dénudé, obsolète. Le symbole monétaire inspiré de la lettre grecque epsilon y est absent. Ce dernier ayant pris forme à une époque où ces machines avaient déjà été renvoyées dans les limbes de l'histoire. Mais je m'éloigne de mon propos. Revenons à nos touches de bakélite. Elles ne regroupent que l'essentiel des caractères nécessaires à la formalisation des échanges épistolaires d'un homme européen d'une quarantaine d'années. Un clavier dégarni, fonctionnel. Un peu à l'image de ma lettre, d'ailleurs. J'ai toujours préféré me fier au procédé mécanographique. Méthode éprouvée et constitutive du mythe de l'écrivain, associé corps et âme à sa machine. Ernest Hemingway ne disait-il pas que sa Corona numéro 3 était le seul psychiatre auquel il ne se soumettrait jamais? Mais revenons à notre affaire, car pour l'heure, c'est bien pour toi que sonne le glas. Je te laisse 3 euros et 50 centimes. Avec une petite et délicate coquille sur le cul. Malformation bien connue de ma Remington portative qui, à chaque frappe de cette 17e lettre de l'alphabet sur le cylindre rotatif d'acier, transforme le tracé de ce cul en un gribouillis hybride, proche de l'esperluette. Je sais d'avance que tu ne m'en tiendras pas rigueur. Il me souvient que tu adorais les mélodies métalliques qui surgissaient de mes longues séances d'écriture mécanique. La clochette du retour de chariot, les chuintements d'engrenage, les bruits de levier et de ressort, les tac-tac-tac, tac-tac-tac, de la barre d'espacement, et le rythme syncopé de ma frappe malhabile accompagnait les siestes langoureuses que tu aimais faire à toute heure de l'après-midi sur le canapé bleu canard de mon petit bureau. Toi qui n'aimais pas écrire, et encore moins écrire à la machine. Tu avais toujours préféré de vulgaires stylobies en plastique translucide qui te servaient à me laisser d'une écriture cursive et enfantine des petits mots d'amour laconiques.
Sortir le chien, pas eu le temps de le faire pisser. Course, pastille la vaisselle. Étrenne du facteur, 20 euros.
Je les ai tous religieusement gardés et conservés, enfermés dans de vieilles boîtes de pastilles pour la toux. Tels d'étranges phylactères, j'ai même les apposés sur les parties les plus incongrues de mon anatomie, me rappelant ainsi la rugosité de ta prose et la morsure de tes caresses. Je te laisse 3 euros et 50 centimes. Comme dit la chanson, je l'ai composée spécialement pour toi, cette lettre. Elle a surgi de la corbeille même de ma machine à écrire, de cette matrice faite de caractères en acier, de cet alignement de symboles disposés en arc de cercle, prêts à surgir de leur amphithéâtre pour aller à jamais marquer le papier d'une trace indélébile. C'est donc de cette corbeille, celle de ma fidèle typewriter américaine, que mes mots ont été délivrés et ils finiront certainement leur course dans une autre corbeille, à papier, cette fois-ci. Située sous le pied gauche de mon secrétaire en acajou. Trajectoire parabolique et courbe, au destin funeste, pour ses pensées couchées sur du vélin d'Angoulême. Mais je me suis égaré. Mes doigts gauches ont arpenté ce clavier, battant la mesure d'une musique bien mélancolique. Et moi qui voulais faire court, me voici perdu. Me voici devenu phalène, tournant en rond dans la nuit, attiré par les feux de l'ampoule électrique. Les feux de ton amour. Les flammes de tes 20 ans. Le brasier de ton consumérisme et le bûcher de tes vanités qui tous me consumaient. J'ai couru à ma perte et nous voici devant le fait accompli. Une bourse quasiment vide et des adieux expédiés. Je laisse s'éteindre ma dernière cigarette de la nuit. Elle dégage de voluptueuses arabesques qui filent s'écraser sur l'horizon du plafond. Je crois bien en avoir fini avec toi. Je te laisse 3,50 € et je t'en prie, surtout, surtout, ne me rends pas la monnaie.
Je suis venu te dire que je m'en vais. Et tes larmes n'y pourront rien changer. Comme dit si bien Verlaine, au vent mauvais. Je suis venu te dire que je m'en vais. Tu te souviens des jours anciens et tu pleures. Tu suffoques, tu blémis la présence. Quel serait l'heure des adieux à jamais.
Radio Couleur Chartreuse, au cœur du massif.
Et comme je vous le disais, Anagram invite les passionnés des mots à jouer avec eux sous toutes les formes possibles. Alors voici une carte postale sonore montée par Erwan Flagel et elle s'appelle Dracher.
Cher monsieur et madame Brochon, nous nous sommes enfin décidés pour un voyage en avion. En partant de Roissy, pas de chance. De la pluie, de la grêle, des nuages, bref, ça drachait. Et puis, nous avons survolé les nuages. Et tout d'un coup, contre toute attente, un soleil magnifique. Pendant tout le voyage, il a fait très beau. Dommage que le steward se soit révélé si peu aimable. Il s'est littéralement mis dans une colère noire lorsque j'ai tenté d'ouvrir un hublot. Dès la descente sur l'aéroport de Nice, les nuages sont réapparus. La météorologie nationale s'est cependant bien trompée, puisqu'elle avait prévu une journée épouvantable sur toute la France, alors que pendant tout le voyage, hormis Roissy et Nice, nous avons eu un soleil. Mais un soleil! Bien à vous, Madame Ronchon. Cher Monsieur et Madame Brochon, hier, Roger m'a emmené au meilleur restaurant de Paimpol, celui qui est indiqué sur le Michelin. Il a commandé une entrée avec de la lotte et du saumon, et puis ensuite un plateau de fruits de mer pour deux. Il sait que j'aime ça et que ça me fait plaisir. Il a choisi le meilleur vin, millésimé. À un moment donné, à cause du maître d'hôtel qui avait la moumoute de travers, j'ai piqué un fou rire. Je pouvais plus m'arrêter. Oh, on a passé une très bonne soirée. En sortant du restaurant, j'ai rêvé que Roger me dise « Madeleine, j'ai envie de tout arrêter. J'ai envie de repartir à zéro, d'acheter un petit bateau et de partir tous les jours en mer, de rapporter tous les soirs le produit de ma pêche. Madeleine, j'ai envie de te faire l'amour, debout, là, maintenant, sur la plage. » Je me suis dit que s'il me disait quelque chose comme ça, ou simplement comme autrefois, s'il me prenait la main, me faisait un petit baiser dans le cou, je me suis promis que j'arrêterais de suivre des cours de broderie et que je m'inscrirais à un cours de varap dans la forêt de Fontainebleau. Ce matin, dans une rue de Paimpol, j'ai acheté de très jolis motifs de canevas. Un sous-bois avec des biches et un petit chat sur un arrosoir. En sortant du magasin, comme ça, bêtement, sans raison, j'ai éclaté en sanglots. Pensée. Émue. Madame Ronchon. Cher monsieur et madame Brochon, Roger est infernal. Il s'est mis dans la tête que l'autre jour, sur la place Saint-Pierre, sa sainteté l'a regardé droit dans les yeux, comme s'il voulait lui dire quelque chose de personnel. Vu le nombre de fidèles qu'on était, je lui ai dit que c'était quand même très improbable. Qu'est-ce que j'avais pas dit là ? Il me traite d'impie, que je devrais rentrer à Échirolle sur les genoux. Je me demande si la religion ne lui porte pas un petit peu sur le système. Bise inquiète, Madame Ronchon. Chère Madame Ronchon, ne tenez pas compte de ma carte précédente. Roger me faisait marcher. Il n'a jamais cru que le pape l'avait regardé. Oh, j'aime mieux ça. Je suis peut-être un peu naïve, mais il m'habitue si rarement à pratiquer l'humour. Échirolle à genoux. Oh, je ne m'y voyais pas. Je suis fragile des ménisques. C'est pour ça que je ne me confesse plus. Bien cordialement, Madame Ronchon. Cher monsieur et Madame Brochon, nous sommes à Avignon. En Avignon, me reprend toujours Roger. Oh, ça me fait drôle de dire en Avignon. Je trouve que ça fait bêcheur. Toujours est-il que nous sommes à vacances en Avignon. Ça tombe mal. Il y a justement un festival de théâtre. Roger n'est pas trop théâtre. Je vais quand même essayer de le décider. Si je pouvais trouver quelque chose de rigolo... Ah, je vais voir ce qu'on joue dans la tour d'honneur. Dans la tour d'honneur, on avait pris des places pour la pièce Henri XII. Au bout d'un moment, on regarde la montre. Oh, déjà presque 3 heures de passé. Et puis 4, 5, 6. Oh, ça n'en finissait plus. Roger dormait et tout d'un coup, illumination. C'est sûr, nous étions victimes d'un canular. J'ai réveillé Roger et on est parti. Rétrospectivement, ça nous a fait rire. Eh bien oui, en pensant à tous ceux qui étaient restés à assister au spectacle sans se rendre compte de rien. L'ambiance est quand même triste ici. Deux jeunes ont distribué des faire-part pour prévenir que Jean Villard était mort. Bien qu'on ne le connaissait pas, ça nous a fait quelque chose. C'est toujours triste un décès pendant les vacances. on s'est renseigné. Et alors, on a appris que ce monsieur Villard était défunt il y a plus de 30 ans. Mais que c'est maintenant, je sais pas quoi, qu'on s'en apercevait vraiment. Roger trouve que c'est un drôle de milieu, le théâtre. Drachement vôtre, Madame Rochon.
Voici l'enregistrement réalisé à partir du travail de Jean-Charles Thérien qu'on avait reçu l'autre jour dans un Chartreuse Info, un biographe lui aussi passionné par les mots, et là c'est avec les adhérents de Terre de Sienne.
Eh, quoi ? Eh ben dis-moi.
Quoi ?
Dis-moi.
Ben ouais !
Dis-moi. Au fil de l'eau.
C'est le printemps à Miribel et sortent les tourterelles. Je dessine une aquarelle en chantant une ritournelle. C'est un château dont les tourelles sont éternelles. Au-dessus de cette citadelle volent les hirondelles. Dans un coin, la fille de la Belle et la Bête mange du babybel. Elle a attrapé la varicelle en jouant à la marelle avec sa ficelle. C'est irréel. Et Isabelle, qui jette les poubelles à Saint-Jacques-de-Compostelle. Moi, je suis allée skier à Courchevel et à Prapoutel, et ça, c'est réel. Et j'y ai mangé la mortadelle. Miam. C'est mortel. Sur son chalutier, Gwenaël s'ennuie. Elle passe ses journées toute seule. Et quand on a la trentaine avec de beaux yeux bleus comme la mer, ce n'est pas une vie. En plus, elle adore les chats. Elle aimerait bien en avoir un pour lui tenir compagnie. Mais quand on est pêcheur, avoir sur son bateau un chat qui nous mangerait le poisson, ça ne tient pas la route. Elle a essayé un jour en le gardant enfermé dans le rouf. Mais ça l'a fait tourner l'ouf. Il a fait un tel barouf qu'elle a dû le laisser sortir et là, ça a été le carnage. Un jour où la mer est encore plus plate encore que d'habitude, Gwenaël craque. Elle n'en peut plus. Elle est ouf. Alors, elle prend sa décision. Elle va changer de métier et ouvrir un bar à chats. Et oui, un bar rempli de chats. Des petits, des grands, des touffus, des à poils ras. À l'idée de la tête que fera son ami Youssouf, allergique aux chats, Gwenaël pouf. C'est décidé. Elle balance ses filets et son ciré à la flotte. Plouf. Et file en ville ouvrir son bar à chats. L'eau, on en parle, mais tiens, au fait, à quoi ça sert l'eau ?
Eh bien, ça sert à plein de choses l'eau, ça sert à laver,
la vaisselle, les voitures, les légumes, les habits, les mains, la tête, les fesses, tout. L'eau, ça sert à donner à boire, aux rosiers, aux plantes, aux jardins, aux forêts, à nous, à tout. Quelqu'un veut un thé ? L'eau, ça sert à rafraîchir. Merci l'eau fraîche, merci les glaçons.
L'eau, ça sert à s'amuser, se baigner, nager à la piscine, dans des lacs, dans la mer, faire du ski. Oh. Ah, c'est pas mal l'eau. Alors, à ceux qui laissent allumer les tuyaux d'arrosage, tirent la chasse à chaque fois, se lavent les dents sans fermer le robinet, jettent l'eau quand ils n'ont plus envie de boire, prennent des douches trop longues, et après il n'y a plus d'eau chaude pour se laver les mains, partent en laissant le robinet allumé, voilà ce que j'ai envie de dire. Arrêtez, arrêtez, vous n'avez pas le droit. On va prévenir les moniteurs, on va vous couper l'eau. Voilà, allez, voilà.
C'est fini.
Ah ouais.
Ben c'est fini. Dommage.
Voici une très très bonne nouvelle sur les ondes de Radio Couleur Chartreuse. On va pouvoir à nouveau profiter de la douceur des soirées d'été avec les mardis de Rivière Alpes à la base de loisirs, place de la Corderie à Les Échelles. Pour le premier mardi, ce sera le 21 juillet avec Boom Boom Kids, un spectacle humour rythmique. Le 28 juillet, théâtre de rue avec Lettres recommandées. Alors Lettres, L apostrophe. Traditionnelle soirée guinguette ensuite le 4 août avec Dimitri Sossard et Michel Alléra. Et puis le 11 août, Déséquilibre passager, c'est un solo de clown et de jonglage. À Radio Couleur Chartreuse, on est très impatients de vous revoir et de reprendre les bonnes habitudes de l'été avec vous. On sera donc présents les mardis 21 et 28 juillet. Ces deux soirs-là, nous serons en direct avec notre studio mobile pour relayer toutes vos infos, vos impressions et bien sûr le spectacle. Rendez-vous tous les mardis au cœur de l'été dès 19h pour manger, rire, danser et aussi voir des spectacles tout public bien vivants à la base de loisirs Rivière Alpes au bord de l'eau et dans un magnifique écrin de verdure. Un grand merci à Cléo pour Anagramme qui nous a fait parvenir les sons nécessaires pour la réalisation de ce Chartreuse Info consacré à Anagramme et aux mots sous toutes ses formes. J'espère que vous avez appris plein de choses et que ça vous a donné envie vous aussi de créer et d'apprivoiser la littérature. Et maintenant, eh ben c'est le moment de vous dire, de vous souhaiter une bonne fin de journée et de vous dire à demain. Ciao, bye bye.